Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Et bonjour, nous sommes le mercredi 19 janvier et il est 12h13 précisément. Après une matinée brumeuse, la journée semble rester nuageuse. On a eu un petit rayon de soleil, malheureusement il ne semble pas rester, c'est bien dommage. On est passé cependant à des températures négatives à positives en passant de moins 4 à 3 degrés. Alors ma voix ne vous est sans doute pas familière, c'est normal parce que mes collègues et moi-même prenons les rênes de l'émission pour les jours à venir. Dans le cadre d'une formation au long cours, nous sommes issus de différentes radios à travers notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes pour apprendre auprès de Radio Calade les compétences nécessaires au plateau en extérieur. Du coup, je m'appelle Anaïs et j'ai le plaisir de vous convier à une discussion autour du vin, de la matière première au produit fini, et ce en direct du local de la coopérative Vinaissance à Belleville en Beaujolais. Je suis en compagnie du coup de trois invités qui sont Bastien Nico, un jeune vigneron local, de Jean-Paul Sivérac, le directeur général de la coopérative qui nous reçoit à Vinaissance, et de Philippe Marx, le directeur export de Vinaissance. On est ensemble sur Calade jusqu'à 13h et je vous propose d'écouter Intromission de Sébastien Tellier. Ensemble sur Calade. Et oui, la chanson que vous avez écoutée, la musique, c'était en instrumental, elle est issue du film Saint-Amour. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Et en tout cas, ce choix musical a été proposé par Ludivine, qui est ma co-animatrice. Salut Ludivine.
Salut Anaïs, je suis heureuse d'être là dans le Beaujolais. Avec toi et puis avec tous les gens autour de notre table.
Complètement, et puis dans cette coopérative, nous sommes entourés de bouteilles de vin, je vous avoue, c'est un peu intimidant. Donc en tout cas, moi qui n'y connais absolument rien, ça va être l'occasion en tout cas d'en savoir un peu plus. Je crois que tu as un invité, Ludivine.
Oui, alors moi j'ai quelqu'un de central chez Vinaissance. En fait, dans notre canapé, nous avons invité Jean-Paul Sivérac, qui est directeur général de Vinaissance. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour. Donc... Et bienvenue chez nous.
Merci de nous inviter, de nous recevoir aussi chaleureusement. Enfin, on est bien entourés, comme l'a dit Anaïs, donc tout va bien. J'ai une première question pour vous. Je ne suis pas du coin et en fait, je ne sais pas du tout comment fonctionne une coopérative. J'ai cru comprendre que c'était une histoire d'hommes et de femmes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Parfaitement. Donc, Vinaissance existe depuis 1929, et une époque de turbulence dans la viticulture. 47 vignerons avaient décidé de s'unir pour unir leurs moyens et techniques et commerciaux pour mettre leurs raisins en commun, faire du vin et le vendre. Et 92 ans après, l'histoire continue. Et aujourd'hui, il y a 300 vignerons. La coopérative a grossi. Nous rayonnons sur tout le nord du Beaujolais, sur l'ensemble des appellations. Et le système coopératif, donc, c'est un homme, une voix. Chaque coopérateur participe à l'Assemblée Générale, détient du capital de la coopérative à hauteur des surfaces qui seront engagées. Les viticulteurs nomment un conseil d'administration avec un président, un secrétaire, un peu comme dans une association. Et ensuite, nous sommes une équipe de salariés, de 21 salariés, qui faisons fonctionner la coopérative au quotidien, en suivant, bien entendu, la stratégie qui a été définie par le conseil d'administration, donc par les professionnels eux-mêmes.
D'accord. Et j'ai lu qu'en 2007, vous aviez fusionné, et d'où la création de Vinescence, si j'ai bien tout compris.
Oui, alors Vinescence est issue de trois coopératives. Au départ, dans le lieu où nous sommes, étaient les vignerons de Bel Air, créés en 1929. En 2008, nous sommes rapprochés d'une coopérative qui était à Chirouble, la maison des vignerons de Chirouble. Donc il y a eu cette première fusion. Et en 2016, début 2017, nous nous sommes rapprochés avec la coopérative Le Cellier des Saint-Étienne, basée à Saint-Étienne-des-Ouillères. Et c'est à cette occasion-là que les vignerons de Bel Air sont devenus Vinescence pour l'association des trois coopératives.
D'accord. Et vous avez des terres que vous exploitez en direct. Comment ça se passe exactement pour quelqu'un comme moi qui vient d'un endroit où il n'y a pas de vignes, donc pas de coopérative? J'aimerais savoir comment ça se passe. C'est-à-dire que chacun a un rôle à jouer dans ce système vivant. Qui amène quoi? Un viticulteur, quel est son rôle?
Le viticulteur cultive ses vignes. Au moment des vendanges, donc apporte son raisin sur un de nos trois sites. Avec ce raisin, donc, nous faisons du vin, bien entendu, des différentes appellations, que ce soit du Beaujolais Village, du Brouilly, Fleury, Moulin à vin ou autre. Donc nous avons plein d'appellations différentes. Ensuite, l'équipe salariée, nous commercialisons le vin, que ce soit auprès de grandes maisons de négoce, comme la maison du Bœuf, Boissé ou autre. Et ensuite, nous en vendons aussi une partie en direct, soit à travers nos boutiques, soit auprès de commerces qui peuvent être aussi bien des grossistes qui servent des restaurants que de la grande distribution, donc avec deux commerciaux, un qui est plus, travaille plus sur la France, et Philippe qui est avec nous, qui travaille plus sur l'export.
D'accord.
Et la coopérative elle-même, en plus d'avoir les raisins de tous ses associés coopérateurs, a choisi quelques années d'investir aussi dans quelques vignes. Il y avait eu une opportunité juste à côté de la coopérative pour acheter un domaine d'un de nos adhérents qui souhaitait vendre. Et puis par ailleurs, en 2014, nous avons aussi repris l'exploitation du domaine des Hospices de Beaujeu, qui sont des terres qui ont été données par le passé par des malades à l'hôpital de Beaujeu. Ces vignes étaient exploitées directement par l'hôpital au départ. Puis, il y a bientôt 10 ans, l'hôpital a souhaité se libérer de cette charge de travail qui n'est plus vraiment dans ses missions et nous en a confié l'exploitation.
Donc, quand on est sur cette partie-là de votre travail, de votre engagement, c'est-à-dire que vous avez des terres et vous les exploitez, vous les faites exploiter, vous recrutez des travailleurs agricoles, des viticulteurs indépendants qui viennent travailler ces terres-là ?
Il y a les deux. Donc, nous avons un chef de culture qui supervise la culture des vignes pour faire les bons travaux au bon moment, ramasser au bon moment, tailler les vignes en ce moment. Et qui fait appel soit à des viticulteurs de proximité. En général, on a un certain nombre d'associés coopérateurs qui sont rémunérés, bien entendu, pour ça, mais qui travaillent sur des terres, des vignes qui sont à côté des leurs. Et puis, nous faisons appel aussi à des prestataires plus généraux pour un certain nombre de travaux.
Et votre production personnelle de la coopérative est, sur ces terres-là, est reversée au même titre que les autres producteurs?
Absolument. Elle rejoint la production générale. Cette production chez nous est dans une filiale qui s'appelle Couleur Terroir, qui a le même statut que les autres coopérateurs. ni plus ni moins, à qui nous reversons le produit de la vente des vins de la même façon que nous le reversons à tous les autres coopérateurs, mais qui participent à l'écosystème de la coopérative.
Ok. Et du coup, moi, j'étais partie sur une histoire d'hommes et de femmes. C'est un peu ça, une coopérative.
Oui.
Parce qu'il y a aussi bien des viticulteurs que des viticultrices. Hein.
Il y a aussi, bien entendu, des viticultrices.
Qui sont coopératrices aussi.
Voilà, absolument. Okay. Nous avons tous les cas de figure. Et au conseil d'administration, il y a plusieurs femmes aussi. Donc actuellement, le conseil d'administration est composé de 22 associés, coopérateurs. Donc, qui sont renouvelables par tiers chaque année lors de l'Assemblée Générale qui, cette année, va avoir lieu après-demain. Nous tenons tout près d'ici, dans l'amphithéâtre du lycée viticole de Bel Air, avec qui nous sommes en relation très proche, puisque le lycée forme des jeunes viticulteurs, mais comme Bastien, qui s'exprimera tout à l'heure, qui les forme au métier de la vigne. Puis nous, ensuite, nous proposons des solutions pour les alternances, et ensuite pour éventuellement s'installer.
Donc ça, c'est une question que j'avais aussi, c'est-à-dire qu'une coopérative, c'est une mise en commun en fait de matières premières, mais aussi d'humains,
de compétences,
mais il y a aussi des mutualisations via de la formation et de l'échange de compétences entre coopérateurs aussi, pas forcément uniquement via le prisme de la formation. Est-ce qu'il y a des échanges de savoir-faire entre producteurs, par exemple ?
Il y a des échanges de savoir-faire. Nous organisons beaucoup de formations. En interne, nous avons une technicienne très spécialisée dans le monde viticole, Caroline, qui organise des formations. Il y a ce qu'elle appelle, pendant la période végétative, des formations bout de vigne, bout de rang, où des coopérateurs viennent et puis regardent ce qui se passe à ce moment-là dans la vigne, les petites bêtes qui viennent sur la vigne, les plantes qui poussent à côté de la vigne, parce que la vigne est dans un milieu vivant. Et la vigne elle-même, bien entendu, pour voir son évolution, ses progrès, et faire en sorte que tous nos adhérents prennent bien conscience et connaissent tous les tenants et les aboutissants de la culture de la vigne.
Il y a aussi une deuxième partie qui m'intéressait un peu dans cette approche, c'est la partie commerciale. On va peut-être en parler très brièvement parce qu'après on va avoir votre commercial qui est avec nous sur place. Mais c'est vraiment en fait cet aspect, les deux boutiques, peut-être les nommer, où est-ce qu'on peut trouver les produits de la coopérative.
Nous avons donc deux boutiques qui ont été rénovées récemment. Celle où nous sommes a été refaite en 2017. Donc c'est une coopérative, une boutique d'environ 150 mètres carrés qui est complètement ouverte sur la route de Beaujeu qui passe devant chez nous, où nous avons donc tous les jours, bien entendu, et qui est ouverte tous les jours de la semaine, dimanche compris. Et puis nous avons une deuxième boutique à Saint-Étienne-les-Ouillères qui, elle, a été rénovée il y a 2 ans, au début de notre crise sanitaire internationale, et qui, là aussi, est sur une route très passante, puisqu'elle va de Villefranche à Beaujeu, donc qui traverse une grande partie du vignoble. Et donc les deux boutiques sont animées par une équipe de 4 personnes qui se relaient pour proposer nos produits aux consommateurs.
Et une dernière petite info avant qu'on passe à la suite, il y a aussi une boutique en ligne, il faut peut-être le dire aussi.
Absolument, depuis quelques années nous avons une boutique en ligne donc, qui est animée par une de nos salariées, Christelle, qui propose donc nos vins à la vente et qui touche des consommateurs qui ne peuvent pas se rendre sur place. Et nous avons tout un système de transport, d'expédition pour que nos vins arrivent jusque sur la table de nos clients.
Merci en tout cas, je pense que
c'est juste une dernière question, moi ça m'interrogeait, on s'interrogeait d'ailleurs à plusieurs effectivement hier en écrivant un peu cette chronique, votre nom Vinescence, ça vient d'où? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça?
Alors il y a une histoire, lorsque les coopératives se sont associées en 2016, le souhait était de trouver un nom qui nous sorte du local purement, de dire les vignerons de Bel Air, Cellier des Saint-Étienne, pour trouver un nom qui rassemble tout le monde, derrière lequel tout le monde se reconnaisse. Et donc nous avons fait travailler une personne qui nous a aidés à définir un nom. Et donc Vinescence, derrière, il y a la notion d'excellence, il y a la notion de vin, bien entendu. Et c'est ça qui a été choisi par le conseil d'administration pour nous représenter.
Ok, génial. Vinescence, ça fait naissance du vin. Je ne sais pas ce que ça t'évoque, toi, Ludivine.
Oui, moi, je trouvais ça assez original aussi. Ça change un peu des caves traditionnelles, caves de... Voilà.
Oui, tout donc, à fait.
Voilà. Ouais. Mais très bonne question.
Oui, ouais, complètement. Allez, j'en profite pour une toute dernière. Du coup, c'est quand même un grand local et vous avez dit précédemment qu'il y avait plusieurs boutiques. Quel type de clientèle viennent ici? Est-ce que c'est une clientèle plutôt française? Est-ce que c'est beaucoup à l'international?
Alors, c'est une clientèle majoritairement française, en partie locale, bien entendu. En plus, nous sommes sur une route très passante. Mais nous avons aussi beaucoup d'étrangers. L'autoroute A6 n'est pas loin, l'autoroute du Soleil. Et nous sommes proches de l'autoroute. Donc, sur les périodes, surtout printemps, été, bien entendu, nous avons beaucoup de personnes d'Europe du Nord. Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Angleterre, qui s'arrêtent en passant pour venir déguster et acheter nos vins.
Je vais peut-être terminer juste par citer votre site internet quand même, si les gens ont envie d'aller jeter un coup d'œil et d'approfondir. Donc c'est www.vinescence.fr.
Merci.
Merci à vous.
Merci en tout cas de nous accueillir. Merci Ludivine, merci Jean-Paul. L'émission continue. En tout cas, vous allez pouvoir écouter du coup un vigneron qui s'appelle Bastien et également le directeur de l'export de cette jolie coopérative qui nous accueille.
Ensemble sur Calade.
Et vous êtes du coup toujours sur Calade. Moi, je vous propose d'écouter une musique de Nancy Sinatra qui s'appelle Summer Wine. C'est elle qui chante avec Lee Hazlewood.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time.
Sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Ooh, summer wine, summertime. En tout cas, c'est pas encore le summertime. Moi, ce que ça évoque, en tout cas, ça me donne envie de faire un road trip. Là, on est dans le Beaujolais. En tout cas, ça peut bien s'y prêter si vous voulez faire le tour des caves, en l'occurrence. Vous êtes bien avec nous sur Calade, ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade. 100.9.
Et oui, là, j'ai le plaisir d'être avec Sana, mon co-animateur. Salut Sana.
Salut Anaïs, tu vas bien? Salut tout le monde.
Ouais, ça va super, je te remercie. Et je crois que du coup, tu es venu avec un invité, non?
Exactement, je suis venu avec un invité et ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est Bastien. Il est là en face de moi. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Voilà, donc Bastien, tu es un jeune vigneron ou viticulteur, parce que c'est deux noms quand même, deux mots. Moi, ça me cause un petit peu de soucis. D'abord, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais d'abord que tu me donnes la définition de... C'est quoi vigneron et viticulteur? Est-ce que c'est la même chose pour toi?
Moi, je suis viticulteur parce que je travaille des vignes.
D'accord.
Mais je ne fais pas le vin.
Ok.
Je travaille juste les vignes. Et donc, le vigneron, il travaille les vignes et il fait du vin.
D'accord, merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux te présenter vite fait, rapidement?
Eh ben,
qui es-tu?
Je suis Bastien Nico, fils et petit-fils de viticulteur. J'ai 18 ans. Je sors d'un bac pro vigne et vin au lycée à Bel Air et installé depuis début novembre.
Depuis début novembre. Qu'est-ce qui t'a donné en fait en tant que jeune de 18 ans? Moi, ça m'impressionne en fait. En plus, moi, je ne connais pas du tout tout ce qui est vin, alcool et tout. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert tout ça. Donc, voilà. En fait, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans ce projet-là? Est-ce que c'est parce que tes parents, ils étaient vignerons et c'est quoi?
Bah, c'est d'être dans une famille de viticulteurs. Et donc, du coup, depuis qu'on est tout petit, on est dedans. Donc, quand on a grandi dedans et qu'on est passionné, on continue.
On continue. Et là, tu parlais que tu as fait une formation dans un lycée, et c'est le lycée qui est juste derrière nous, là.
Oui.
Et tu as fait combien d'années? 3 ans?
3 ans en apprentissage sur un bac pro en vigne et vin. Donc, qui nous apprend la culture de la vigne et comment vinifier du vin.
D'accord. Et donc, du coup, dans cette formation, il y avait une alternance ou c'était comment?
Oui, moi, j'ai fait mon bac pro en alternance, donc à la cave de Vinescence pendant 2 ans et chez un autre viticulteur pendant 1 an.
Pendant 1 an. Et tu disais que tu as repris les vignes de tes grands-parents?
Oui, donc qui étaient exploitées par mes parents et encore un petit bout par mes grands-parents. Et du coup, moi, mes parents m'ont laissé les vignes de mes grands-parents pour que je puisse les exploiter et avoir une exploitation.
Mais ça, c'est une responsabilité quand même en tant que jeune de 18 ans.
Oui.
Tu fais comment? Comment tu fais pour travailler tout ça? Explique-nous un petit peu.
Comment je fais? Je suis aidé par mes parents, mais après, en ce moment, par exemple, on taille. Donc, on répète pendant 3-4 mois la même chose. Mm-hmm. Et après, on suit comment la vigne pousse, toutes les étapes qu'on a à faire dans les vignes.
Mm-hmm. D'accord. J'ai répété plusieurs fois que tu as 18 ans. Les gens, je pense qu'ils ont bien compris ça. En tant que nouvelle génération, est-ce que tu amènes quelque chose de nouveau ou tu suis de la même manière que les anciens, comment ils faisaient ou...
On ne suit pas forcément ce que nos parents ou nos grands-parents faisaient, puisqu'il y a toujours des nouvelles méthodes et on essaye de s'améliorer et d'aller de pouvoir travailler dans de meilleures conditions.
Et est-ce qu'il y a une entraide entre des jeunes vignerons? Il n'y a que toi ici ou il y en a d'autres aussi comme toi?
Non, il y en a d'autres, pas beaucoup dans le Beaujolais, mais il y en a quelques-uns. Qu'on apprend, souvent on arrive à se connaître quand on est à l'école.
Okay.
Quand on a à peu près le même âge. Après, il y a des personnes qui sont un peu plus vieux que moi, mais qui sont là aussi pour nous aider.
D'accord. Et les cèpes des vignes, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi exactement ça? Et la plantation, quand vous les plantez, ça prend combien de temps, le temps de récolter en fait tout ça?
Et quand on fait une plantation, donc on va planter un cep de vigne, et au bout de la 3e année, on va le récolter. On va pouvoir le récolter parce que souvent pendant 3 ans, il fait soit pas de raisin, soit très peu de raisin.
D'accord. Donc du coup, ça demande trop de la patience.
Pas de la patience, mais faut qu'on arrive qu'à la troisième année, ça soit capable de faire une récolte et pas qu'à la troisième année, on fasse pas du tout de vin dans la parcelle.
D'accord. Et là, j'ai lu un article sur France Info récemment. Ça fait pas ça, bon, ça date de 2021. Ça fait pas très longtemps. Et j'ai lu dedans que dans 10 ans, la plupart des vignerons vont partir à la retraite. Et toi, en fait, ça te fait quel effet en tant que jeune? Et le fait de reprendre aussi seul de tes grands-parents, est-ce que pour toi c'est une source de continuité? C'est quoi exactement? Ou c'est juste par passion?
Bah, une source de continuité et de passion aussi. Et puis bah, dans 10 ans, on ne sait pas. On sait qu'en tout cas, beaucoup de viticulteurs seront à la retraite. Mais on espère qu'il y aura d'autres personnes derrière pour continuer à exploiter les vignes.
Et toi, tu comptes faire ça toute ta vie ou...
Pour le moment, oui. Je suis encore loin de la fin de ma vie, donc je ne peux pas savoir, mais oui.
À 18 ans, ouais. Du coup, les saisons, ça se passe comment les saisons?
L'hiver, on fait le taillage puisque la vigne ne pousse pas l'hiver. Après, au printemps, la vigne commence à pousser, à démarrer. Donc, on a tout ce qui est un peu travaux d'entretien de sol à faire. Après, fin printemps, début été, on va être sur tout ce qui est un peu traitement. Donc, pour éviter les maladies de la vigne. Et après, on arrive aux vendanges. Donc là où on ramasse notre récolte. Et puis, une fois les vendanges finies, on recommence et on y revient les taillages, tout ça.
Moi, j'avais une petite question pour toi, Bastien. La question qui me taraude un peu, c'est qu'est-ce que ça fait de grandir dans une famille de vignerons? Tu vois, je me dis, t'as 18 ans, moi je me dis 18 ans, c'est l'âge légal pour acheter de l'alcool phare. Je pose une question pratique, hein, du coup. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai dû boire du cidre, aller une fois quand j'avais 13 ans. À quoi ressemble du coup l'expérience d'une enfance dans une famille de vignerons sur plusieurs générations? Et j'entends l'amour que tu portes en tout cas au domaine, enfin à la vigne de manière générale et à ton métier. À quoi ça ressemblait du coup? Est-ce que c'était genre, t'as le droit de goûter une petite goutte? Parce qu'en même temps, il faut former ton palais, je suppose. À quoi ça ressemblait tout ça?
Oui, on goûte. Quand on est plus jeune, on goûte. Maintenant, on a le droit d'en boire.
On goûte, mais on ne boit pas.
Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on nous apprend le métier. Quand on est passionné, on va aller aider nos parents dans les vignes et voir comment ils y travaillent. D'apprendre tout ça, quoi. Si j'ai été clair. Mais...
Ouais, tout va bien. Bon, de ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu n'as pas été bourré enfant et j'en suis rassurée. Merci beaucoup, en tout cas, Bastien. Merci, Sana. Restez, en tout cas, on écoute très vite l'interview de Philippe Marx, qui est du coup le directeur de l'export de cette jolie coopérative qui nous reçoit.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade. Et du coup, moi, je vous propose, à défaut, alors comme je vous disais tout à l'heure, si vous étiez avec nous sur le début de l'émission, on est entouré de bouteilles de vin. Alors, je vous invite à écouter une chanson qui appelle, en tout cas, à la consommation. Ça s'appelle A Drink Wine de Adele.
Choices that somebody else makes. How come we've both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. Single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice.
truly satisfied, you better believe I'm trying to keep climbing. But the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get
C'était du coup A Drink Wine de Adele. Je sais pas pour vous, en tout cas Adele, c'est vrai qu'elle a souvent des chansons un peu nostalgiques. J'ai un peu regardé les paroles, ça sent pas hyper joyeux. Alors je sais pas ce qu'elle invoque du coup dans J'ai besoin de boire un verre. Voilà. Est-ce que le vin est forcément d'ailleurs synonyme de nostalgie? Ça, j'en suis pas sûre. On pourra en discuter juste après.
Ensemble sur Calade.
Et je suis avec Céline. Salut Céline.
Et salut Anaïs.
Bon, bah, j'espère que toi, tu vas bien. Je crois que tu es venue avec un invité.
Eh bien, oui, tout à fait. Il s'agit donc de Philippe Marx, qui est donc le directeur commercial export. Car effectivement, jusqu'à présent, on vous a présenté l'histoire et le fonctionnement de Vinescence. On a découvert aussi le métier de viticulteur. Et maintenant, je pense qu'on va s'intéresser aux caractéristiques qui fait de ce vin le Beaujolais. Bonjour, bienvenue.
Bonjour à tous.
Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je pense, c'était difficile de créer cette interview, mais je me suis dit, pour s'intéresser aux caractéristiques du vin, on va aller à la racine, parce que qui dit vin dit raisin, qui dit raisin dit vigne. Et alors, ici, sur ce territoire, quels sont les atouts naturels qui font que c'est du bon vin?
Alors, déjà, on a une chance énorme dans le Beaujolais. On travaille avec un seul cépage. On travaille tout en monocépage, en gamay. Et on a la chance d'avoir un territoire qui est très vaste, très varié, avec beaucoup de différences du sol. En fait, nous, on a la chance, on a un seul cépage, et on va avoir des vins qui sont complètement différents entre un Beaujolais village qui va être léger, un Brouilly qui va avoir un peu de structure, un Morgon qui va être très charpenté. En fait, on utilise le même raisin. Et toute la différence vient, c'est l'expression du terrain, l'expression du terroir. On a la terre qui est différente, on a plein d'influences, c'est le sol qui va nourrir la vigne, qui va lui donner des différences. On a l'altitude, on a quand même des vins, par exemple à Chiroube, qui sont en altitude plus élevée. On va avoir des différences de température entre la nuit et la journée, ce qui va ramener quelque chose, qui va influencer le raisin. Et tout ça fait que, à partir d'un même raisin, on va avoir des vins complètement différents. Je prends toujours l'exemple, c'est comme quelqu'un qui parle français, quelqu'un de Marseille, de Lille ou de Bordeaux, il va parler le même français que les autres, mais avec son accent, le français va être différent. Et ben là, c'est pareil. Le même raisin va nous donner des choses différentes. Et c'est ça qui fait la beauté du Beaujolais.
Alors moi, j'ai besoin un peu de clarifier au niveau du jargon. Donc, vous me parlez de cépages. Alors moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait deux cépages, mais en fait, vous me dites qu'il y en a un seul.
Alors, pour les rouges, il n'y a qu'un seul, c'est le gamay. Pour les blancs, on a du chardonnay. D'accord. Et nous, on a quelques vignes où on a du pinot noir, mais c'est pour la production de crémant de Bourgogne.
Très bien. Et donc, j'ai vu aussi que vous avez 12 appellations. Alors, appellation et cru, est-ce que c'est synonyme ou alors est-ce que ce sont des choses différentes?
Alors, en fait, les appellations, on a Beaujolais, Beaujolais village. Et après, au-dessus, on a les crus qui sont, pour faire simple, des villages, des petites zones qui ont une caractéristiques différentes. Je vais prendre la côte du Brouilly, où sur cette colline, on a une roche très particulière, la pierre bleue, qui va influencer le raisin. On a juste en face, on a un petit peu de brouillard, mais d'habitude, on voit la côte du Puy juste derrière à Morgon, qui est un ancien volcan, avec une terre volcanique qui, elle, va influencer. Et donc, c'est là les crus. On a défini des régions. En fait, on est parti de quelque chose de large pour arriver sur quelque chose d'un petit peu plus pointu. Et même aujourd'hui, à l'intérieur des crus, on a ce qu'on appelle des climats. C'est encore plus précis, plus petit, où là on a un sol encore différent qui va ramener quelque chose de différent dans le vin.
Et donc dans le Beaujolais, vous proposez du rouge, du blanc, du rosé. Et bien entendu, alors moi je viens de Savoie, mais j'ai bien entendu entendu parler du Beaujolais nouveau. Donc là il y a vraiment une énorme renommée autour de cela, je crois que ça va même au-delà de nos frontières.
Tout à fait.
Comment et pourquoi ce Beaujolais nouveau crée vraiment tout un événement autour de lui chaque année? Et comment vous travaillez cette réputation, cette notoriété?
Alors déjà, l'histoire du Beaujolais nouveau, ça nous prendrait trop de temps, mais en fait c'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps, qui dans les années 70 s'est développé. Et en fait on a créé un événement, c'est juste la fête du premier vin de l'année. Vous avez les Américains qui font le Thanksgiving pour remercier la récolte, nous c'est un peu ça. Et on a eu l'intelligence, les gens qui ont lancé ça ont eu l'intelligence de faire que dans le monde entier, au même moment, au même jour, tout le monde ouvre une bouteille et déguste le résultat du travail d'une année, de ce que mon ami Bastien à côté a fait de toute l'année. On va juste célébrer ce moment-là. Et c'est, je dirais, la convivialité que l'on connaît tous dans le Beaujolais. Des choses simples, on se retrouve entre amis, on ouvre une bouteille, on ouvre deux, on discute et voilà. Je dis toujours, la chance avant que les réseaux sociaux existaient, le premier réseau social, c'était la bouteille de vin. Vous prenez trois étrangers autour d'une table, vous leur mettez une bouteille de vin, vous venez cinq minutes après, vous leur demandez vous en pensez quoi, ils parlent ensemble. Et c'est ça le Beaujolais nouveau, c'est célébrer un moment de convivialité. Et la chance, c'est que ça se fait au même moment, que ce soit à Tokyo, à New York, à Moscou, à Saint-Jean-d'Ardière ou à Paris.
Donc on voit qu'il y a vraiment des facteurs naturels, mais aussi un amour profond pour cette histoire, ce Beaujolais. Et puis aussi, donc, sur le territoire, il y a possibilité de visiter des caves. Donc ça se lie aussi au patrimoine culturel, là, cette fois, le Beaujolais.
Ah oui, tout à fait, parce qu'on est, vraiment sur quelque chose de... c'est pas, le Beaujolais a forgé notre territoire, a forgé la nature. Quand on se promène, on voit toutes ces vignes qui ont influencé sur le paysage, mais ça influence sur les gens. On a la chance de... qui dit vin dit table, qui dit table dit restauration, gastronomie. On est dans une région qui est magnifique pour la gastronomie. Tout ça est lié. Et ce qui fait que, on parlait tout à l'heure des gens d'Europe du Nord, on a beaucoup de gens d'Europe du Nord qui vont prendre le soleil sur la côte, qui s'arrêtent ici, faire une étape pour aller déguster des vins, manger de la cochonnerie et repartir vers le sud, vers la vacance.
Et donc vous, en tant que directeur commercial export, donc vous allez chercher les clients peut-être, et vous valorisez le Beaujolais. Par quoi vous commencez pour vendre ce Beaujolais pour le... On sent que vous avez de l'amour pour lui, mais par quoi on commence?
Alors déjà, moi je suis malheureux depuis 2 ans, je ne peux plus voyager comme je voyageais avant, parce qu'il y a cette chance aussi quand on va au-devant des clients, on va dans les pays. Habituellement, je me déplaçais, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Russie. On allait voir nos clients, on allait voir nos distributeurs pour leur présenter les vins, pour leur montrer tout le travail qui était fait derrière, et après, d'aller au-devant du consommateur. Et on a la chance, ici, dans cette région, d'avoir des vins qui parlent aux consommateurs. On avait, pendant une période, les gens voulaient des vins très structurés. Aujourd'hui, on revient sur des choses plus légères, plus souple, plus fine, plus aromatique, et c'est exactement ce que nous on leur propose. Donc aujourd'hui, je dirais que les vins du Beaujolais sont dans l'air du temps.
Et donc des fabuleux facteurs de lien social, comme vous nous l'avez dit. Personnellement, moi, ça commence à me donner un peu soif, tout ça.
Déjà, j'ai remarqué qu'Anaïs plusieurs fois parlait qu'elle était entourée de bouteilles. Rassurez-vous, on pourra déguster avec modération, parce que même si on est fils de viticulteur et qu'on boit, on boit avec modération et un petit peu, mais ça permet de découvrir les vins. Vous pourrez en découvrir tout à l'heure.
Je ne savais pas comment amener la chose, mais voilà, vous m'emmenez une épine du pied, c'est un plaisir.
Moi, j'avoue que étant une néophyte complète, ça me perturbe toujours de penser, parce que tout à l'heure, on faisait les tests de cette émission et on était en train de visualiser, de faire un peu une séance de relaxation avant, au cas où et tout, puis il fallait les visualiser un objet, et quelqu'un a évoqué un crachoir, et c'est vrai que le crachoir, je me suis dit toujours, mince, pour des professionnels, effectivement, faut pas avaler, faut cracher. Et voilà. Et du coup, je me dis, c'est pour moi, c'est qui aime le vin, mais qui ne sait pas sans doute le déguster autant que vous avec vos palais, j'ai toujours l'impression que c'est gâché.
Alors, c'est pas gâché. En fait, nous, on crache pour une raison toute simple. C'est que quand on déguste, souvent, on a beaucoup de vins à déguster. Quand on fait des sélections, on en est des fois à 15-20 à déguster. Donc si on buvait tout, je ne suis pas sûr qu'à la fin, notre choix soit le meilleur. Donc on est obligé effectivement de cracher. Maintenant, je vous rassure, quand on a des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, alors on prend l'excuse de, il faut quand même voir si derrière ça passe bien. Donc oui, il nous arrive quand même d'en boire un petit peu.
Et justement, du coup, de passer d'un vin à l'autre, je sais que par exemple pour l'huile d'olive en Grèce, ce qui est recommandé, c'est de manger une tranche de pomme. Est-ce qu'il y a des astuces similaires pour passer d'un vin à l'autre qui peut être assez différent pour garder un palais un peu intact?
Alors, on essaie toujours dans une dégustation de commencer par les vins les plus légers pour finir par les vins les plus corsés. Et moi, personnellement, je finis toujours par les blancs parce que l'acidité, la fraîcheur va vous réveiller un petit peu le palais. Et oui, de temps en temps, on fait des pauses et on boit un petit verre d'eau parce que là, justement, par rapport à la pomme, ça risque de nous changer le palais. Donc, il faut qu'on essaie de garder notre palais le plus neutre possible.
Merci beaucoup, en tout cas, pour...
C'est un plaisir. Et donc, si on doit s'arrêter tout de suite, j'ai l'impression que tout le monde est... On va aller ouvrir quelque chose.
Ouais, en tout cas, voilà, on va essayer de faire court sur cette émission. On promet, on ne sera pas bourré à l'antenne, ça c'est sûr. On a été ravis, en tout cas, d'être avec vous. Merci beaucoup.
C'est un plaisir pour nous.
Merci Céline, merci tout le monde dans ce beau local. Voilà, à voir. En tout cas, je ne sais pas si mes collègues et moi-même allons cracher. Je pense qu'en tout cas, Kevin, toi, tu avais l'air de vouloir absolument du Morgon. Je crois qu'il qui est vendu chez vous. Écoutez, on va essayer de goûter tout ça.
Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Merci donc à nos trois invités d'avoir participé à cette émission et de nous avoir accueillis donc dans ce beau local qui est la coopérative de Vinescence. On était à Belleville en Beaujolais. Notre émission du coup, elle touche à sa fin et elle sera disponible en réécoute et en podcast sur notre site internet radio-calade.fr. Et c'est le tiret du 6 pour les gens qui ne savent pas. Et on est également présent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense qu'il y a Benoît qui a dû publier quelques photos sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tout cas, Mathieu n'était pas à la technique, donc vous n'aurez sans doute pas des petits cœurs sur le Instagram, parce qu'apparemment, c'est comme ça qu'il montre son amour. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas, à Radio Calade. Demain, je vous invite à revenir à la même heure. On sera en direct du restaurant Le B35, qui est tenu par Guillemette Fessy. Et on parlera des conscrits, parce que nous, en tout cas, n'étant pas de la région, pour ma part, en tout cas, moi, je suis de Haute-Savoie, c'est quelque chose qui m'est complètement inconnu, donc plus d'infos à ce moment-là. Restez sur Calade, c'est l'heure des infos nationales et internationales de RFI, suivie du journal local de Sylvie Rosier.
Ensemble sur Calade.